Chers amis, chers frères et sœurs, nous ouvrons la première lettre de Jean, donc à la fin de nos Bibles, pour en lire deux passages. Le premier dans le chapitre 1er, à partir du verset 5, et jusqu'au chapitre 2, verset 2. Chapitre 1er, verset 5 à 2, verset 2, ce sera notre texte de base pour toute notre réflexion ce matin et cet après-midi. Je lis donc 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, du Seigneur Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie continuellement de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier loin de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Chapitre 3, nous lisons au chapitre 3 les versets 4 à 10. Nous avons déjà évoqué une partie de ce passage hier soir, chapitre 3. Au verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire, de désagréger les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Nous avons hier soir posé les bases, les fondements bibliques de l'authenticité. La première épître de Jean, nous l'avons vu, pose ses bases. avant d'entrer dans le vif du sujet de l'authenticité de la vie chrétienne, l'apôtre Jean met les choses bien au point. Il pose des fondations, et c'est ce que nous avons fait hier soir, de manière à vivre de certitude. Nous avons remarqué ensemble que la première épître de Jean est l'épître des certitudes. Nous savons. Il faut que vous sachiez. Vous ne devez pas ignorer. Nous connaissons. Et en utilisant ce langage, Jean propose des tests par lesquels nous pouvons nous assurer que nous connaissons bien Dieu, que nous avons une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et nous avons dit hier soir que ces tests sont posés dans le domaine doctrinal, très exactement théologique. Il s'agit de la doctrine de la personne de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Dans le domaine moral également, qui va nous intéresser aujourd'hui, et puis dans le domaine social ou relationnel, c'est-à-dire dans nos relations les uns avec les autres, en particulier dans la première épître de Jean, au niveau de l'amour. J'aimerais poser une question à nos amis qui étaient là hier soir. Est-ce que vous vous souvenez quel est un de ces mots, une de ces expressions clés, point de repère, facile d'ailleurs à détecter dans le texte, sur laquelle nous nous sommes arrêtés pendant un moment? Quelle est cette expression qui nous a beaucoup intéressés pendant toute une partie, la deuxième partie de notre réflexion? Né de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Alors, vous n'allez pas consulter vos notes, certains ont pris des notes hier soir. Vous allez essayer de repenser à ce que nous avons partagé, de manière à communiquer à nos amis qui nous rejoignent aujourd'hui ce que vous avez retenu. Nous avons remarqué qu'il y avait tout un faisceau de preuves que nous sommes bien nés de Dieu. Celui qui est né de Dieu, premièrement, qui va dire ? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça va nous intéresser aujourd'hui. Deuxièmement, c'est dans le texte, la première épître de Jean. Vous pourrez le retrouver ici, les questions d'un Jean 3, 9. Nous avons lu ce passage et cela est répété d'ailleurs au chapitre 5, verset 18. Maintenant, il y a le côté positif de cette preuve de la nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu pratique la justice. Ceci nous est dit à plusieurs reprises aussi, 1 Jean 2, 29 notamment. Si vous savez que Jésus-Christ est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu, né de lui. Ensuite, quelqu'un d'autre va partir dans une troisième direction complémentaire, toujours une preuve de cette nouvelle naissance, celui qui est né de Dieu. Pardon ? Il aime, et notamment son frère. Il aime, ceci est dit tout d'abord de manière assez ramassée, sans précision, mais nous avons remarqué effectivement que toute la première épître de Jean n'est pas d'abord centrée pour l'amour à l'endroit de celui ou de celle qui est en dehors de Christ, mais d'abord l'amour pour celui qui est en Christ, parce que si nous ne sommes pas capables d'aimer nos frères et sœurs en la foi, comment pourrions-nous être capables d'aimer ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, puisqu'un fossé énorme nous sépare d'eux à tous égards. Donc dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, celui qui est né de Dieu aime, en particulier dans la dimension de l'Église. Il est question 16 fois dans la première épître de Jean des frères, les sœurs sont dans le coup, et 5 fois de nous aimer les uns les autres. Ensuite, quatrième preuve du fait que nous sommes nés de Dieu, celui qui est né de Dieu. Allez, donnez-moi la preuve théologique, elle nous a intéressés hier soir. Celui qui est né de Dieu. Plus fort encore. Oui, alors ça c'est une preuve dans le domaine moral, mais elle est bonne. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas capturer, séduire, dévorer, transformer, absorber par le monde, c'est-à-dire cette mentalité, cette manière d'être, de penser, cet ordre, parce que le mot monde veut d'abord dire ordre, c'est le mot cosmos, et c'est d'abord l'ordre de Dieu, et puis il y a la caricature de l'ordre de Dieu, c'est l'ordre du diable, parce que le diable caricature Dieu dans son ordre. Alors, Satan sait aussi ce que c'est que l'ordre. Mais son ordre à lui n'a rien à voir avec l'ordre de Dieu. Et donc, nous triomphons de ce système, de cet ordre du diable, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine philosophique, dans le domaine moral, social, économique, spirituel. Nous triomphons de ce système dans la mesure où nous sommes nés de Dieu, et bien sûr dans la mesure où nous mettons notre confiance personnelle renouvelée quotidiennement, jour après jour, d'instant en instant, en notre Dieu. C'est 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et puis il reste toujours ce qui peut-être est le plus difficile à percevoir, mais qui est très important dans la première épître de Jean, cette preuve théologique de notre nouvelle naissance, de théos, Dieu, logos, la science de Dieu. Quelle est la preuve? Celui qui est né de Dieu, ça c'est très important, hein, croit que Jésus est le Christ, sous-entendu qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est absolument inconcevable de dissocier la personne de Jésus de la personne de Christ. Ce qui a été une approche très courante vers la fin du 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, et qui est devenue la pratique courante ou la confession de foi courante de certaines grandes sectes qui font des ravages aujourd'hui, ce matin, pendant que nous sommes ici. Des milliers de personnes vont deux par deux dans les rues de nos villes et de nos villages, je veux parler par exemple des témoins de Jéhovah, et qui précisément, eux, sont tombés dans ce piège, c'est-à-dire qu'ils dissocient de manière très nette la personne de Jésus, en quelque sorte la personne de Christ, parce qu'ils font de Jésus une créature née de Dieu. Alors que Jésus-Christ, n'est pas né de Dieu. Dieu n'a pas un jour décidé d'enfanter quelqu'un qui s'appellerait Jésus-Christ. Jésus-Christ était de toute éternité, le Christ en tout cas était de toute éternité, dans l'entourage, dans cette unité absolue, dans ce travail d'équipe parfait, de toute éternité, aux côtés de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est tout le miracle de la Trinité qui ne s'explique pas, qui se reçoit et qui, ensuite, une fois que cela est reçu par la nouvelle naissance, peut tout à fait se croire sans que cela pose de problème. Voilà, en ce qui concerne les points de repère au niveau de la nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voici ce qui nous est dit donc dans 1 Jean 3, verset 9. C'est ce qui va nous intéresser. C'est le premier point de repère, c'est le premier signe, la première preuve d'une nouvelle naissance réelle. C'est la première manifestation d'une vie chrétienne authentique. Ces versets 1 Jean 3, 4 à 10 n'ont pas été sans poser de problème aux lecteurs des Écritures. Et ils méritent donc, là encore, quelques explications d'ordre doctrinal avant que nous n'entamions la partie pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Que celui qui est né de Dieu, littéralement dit le texte, ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est un texte qui peut apparaître troublant. Et il existe des mouvements, y compris à l'œuvre en France, un mouvement notamment qui est issu d'un grand courant dans l'histoire de l'Église qui s'appelle le méthodisme, dont Wesley est à l'origine. Et dans un des courants de ce qu'on appelle le méthodisme figure une branche qu'on appelle la branche des Nazaréens. Et les Nazaréens ont des églises dans notre pays. Il y en a une dans la région de Versailles, il y en a d'autres en région parisienne et ailleurs. Il faut savoir que, par exemple, ce mouvement s'appuie sur 1 Jean au chapitre 3 pour dire qu'il y a dans la vie chrétienne un moment où, en faisant une expérience particulière, celui qui est né de Dieu devient incapable de pécher. Et notre fédération, il y a quelques années, a eu la candidature de cette association d'églises en France, et nous avons refusé de recevoir cette association parce que, précisément, dans ce qu'on appelle sa confession de foi, l'affirmation de sa doctrine, elle disait que, en faisant une certaine expérience après la nouvelle naissance, le disciple de Christ devient incapable de pécher. Et ça, c'est très problématique, parce que ça oblige à toutes sortes d'excuses chaque fois que l'on dérape à quelque part. Si on ne pêche pas, il faut trouver une excuse à ce que l'on fait et qui n'est pas tout à fait orthodoxe, et on tombe, hélas, dans toutes sortes de problèmes que nous allons d'ailleurs examiner ce matin. Alors, disons tout d'abord que cette affirmation ne signifie pas que l'homme né de Dieu ne pêche plus du tout. Cela ne signifie pas qu'il est incapable de pécher. Cela ne signifie pas qu'il est dans l'impossibilité de pécher. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Bible s'explique par la Bible. Et que l'apôtre Jean, inspiré par Dieu, ne pouvait pas se contredire lorsqu'il écrivait cette épître. Et dans cette épître, au chapitre 1er et au verset 8, il est dit, et l'apôtre Jean s'adresse à des croyants, à des membres d'église, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Puisqu'il y a cette affirmation, il va de soi que la seconde affirmation d'un Jean 3, 9 ne peut pas vouloir dire le contraire. Dieu est un Dieu qui ne se contredit pas. Donc, nous devons évacuer ceci. D'ailleurs, au chapitre 2, verset 1er, il est dit, mes petits enfants, c'est un vieillard, il a près de 100 ans hein, quand il écrit ce passage, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et immédiatement, l'apôtre Jean ajoute, si quelqu'un a péché. Donc l'apôtre Jean reconnaît que dans la vie chrétienne, il est parfaitement possible de pécher. Vous voyez, il y a donc une cohérence dans cette première épître de Jean. Et si vous êtes un jour en face de quelqu'un qui, s'appuyant sur 1 Jean 3, vous dit « Ah non, moi, depuis telle expérience, je ne pêche plus », vous lui dites « Mais écoute, tu as mal compris 1 Jean 3, parce que dans le chapitre 1er et au début du chapitre 2, il est dit tout à fait autre chose. Donc l'apôtre Jean ne peut se contredire. Vous avez un autre texte, ailleurs dans les Écritures, Jacques chapitre 3, verset 2, où il est question de l'utilisation de notre langue, et au verset 2, L'apôtre Jacques introduit le thème du péché de la langue en affirmant « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Jacques reconnaît que, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous ne sommes pas encore des gens impeccables, au sens littéral du mot « impeccable », c'est-à-dire qui ne pêchent pas, mais nous bronchons, nous chutons, hélas, tous de plusieurs manières, et notamment au niveau de la langue. Il est important, quand on lit 1 Jean 3, de tenir compte de l'enseignement des faux docteurs que nous évoquions hier. Vous vous souvenez que les faux docteurs, notamment un certain Sérinthe, qui a fait des frayeurs à l'apôtre Jean dans les bains d'Éphèse, comme nous disions hier soir, un certain Sérinthe et ceux qui le suivaient, donnaient un enseignement qui a été à la base de ce qu'on appelait le gnosticisme. Vous entendrez parler du Nouvel Âge dans des termes assez semblables. On dit aujourd'hui que le Nouvel Âge, c'est ce qu'on appelle un néo-gnosticisme. C'est un nouveau gnosticisme, c'est-à-dire qu'on a dans le Nouvel Âge des systèmes de pensée qui ressemblent curieusement à ceux qui se sont développés dans tout le bassin méditerranéen au cours de la fin du 1er siècle et des 2e et 3e siècles. Alors, quel était l'enseignement des faux docteurs au sujet du péché? Vous vous souvenez que nous avons lu tout à l'heure 1 Jean 1, 5 à 2, 2. Et l'apôtre Jean commence par là parce que ces hérétiques, ces hommes qui se posaient en contradicteurs du message de Jésus-Christ, affirmaient que leur connaissance, leurs expériences spirituelles, leur illumination, leur mysticisme les avaient rendus parfaits. Nous sommes parfaits. Nous sommes arrivés à un stade, nous sommes des initiés, nous sommes une élite, nous sommes désormais incapables de pécher. Alors l'apôtre Jean leur répond, mais vous êtes aveugles. Votre position est moralement fausse. Elle est dangereuse. Oser nier le péché et son caractère universel, le fait qu'il touche tous les hommes, ce que l'apôtre Paul dira dans Romains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais c'est être un menteur. Vous voyez que l'apôtre Jean n'y va pas par quatre chemins. Si vous niez la possibilité d'être encore un pécheur, vous vous conduisez en menteur. Au chapitre 3 et au verset 4 et 10, d'autres hérétiques affirmaient que le péché n'avait pas d'importance, que quand on était spirituel, le péché ne pouvait pas pénétrer au niveau de l'esprit, et que c'était ça l'essentiel. Si l'esprit n'était pas touché par le péché, tout le reste était bon. Donc, on pouvait se vautrer dans l'immoralité, on pouvait vivre absolument n'importe comment. L'essentiel, c'était que l'esprit ne soit pas pénétré par le péché. Alors, Jean leur dit, mais vous savez, c'est dangereux. Il est dangereux d'être indifférent au péché et de nier sa gravité. Il y a une incompatibilité absolue entre le péché et le chrétien. Voilà ce que l'apôtre Jean dit. Il y a autant d'opposition entre le péché et le chrétien qu'il y a d'opposition entre le feu et l'eau. Et je vous le dis, vous, faux docteurs, pratiquer le péché, c'est tout simple, c'est être du diable. Vous voyez, là aussi, l'apôtre Jean, avec toute sa sagesse, pourtant est très carré. Dans ce domaine, il n'y a pas de possibilité de souplesse, d'alternative, non, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Si vous pratiquez le péché, vous êtes du diable. Terme fort, absolu, catégorique, parce qu'il faut absolument dénoncer et confondre ces faux docteurs qui sont en train d'essayer de déstabiliser l'Église par leur vue erronée. Alors à partir de là, maintenant que nous avons vu quelle était la mentalité des faux docteurs, et ça court les rues aujourd'hui aussi, Quelle est exactement la signification exacte donc de 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ou ne pêche pas, suivant les versions que vous avez peut-être une version dans laquelle il est écrit tout simplement ne pêche pas. Alors, là, pour comprendre, vous pourriez vous passer de cette explication. Nous avons déjà remarqué que la Bible s'explique par la Bible, mais je vais quand même vous donner une explication complémentaire qui a son importance. Et l'enseignement biblique dans l'Église est là pour nous aider dans ce domaine à aller plus loin. Il m'est arrivé dans le passé, dans certaines séries de réflexions bibliques ensemble, de vous parler de l'importance de la conjugaison dans la langue grecque. Dans la langue grecque, qui est la langue du Nouveau Testament, existent des temps qui n'existent pas dans la langue française. Et il y a des temps qui existent dans la langue française, mais qui prennent un sens peut-être un peu plus particulier dans la langue grecque. Et il y a notamment deux temps qui sont très importants en conjugaison grecque et auxquels on a continuellement affaire dans le Nouveau Testament. Il y a d'une part le présent, et il y a d'autre part l'aoriste. Alors, je vais vous donner une petite explication préalable avec un exemple pour que vous distinguiez bien la différence entre le présent et l'aoriste. Je peux me tourner vers mon ami Patrick et lui dire « je te frappe » ou encore mieux, ce sera plus gentil, frappe-moi, ce qui est un impératif. Si c'est un impératif présent en grec, et que Patrick connaît le grec, si je lui dis frappe-moi, impératif présent, j'ai intérêt à me sauver. Parce que Patrick va venir et il va me frapper, peut-être jusqu'à ce que je meure. Le présent en grec a toujours une dimension de continuité. C'est ce qu'on appelle un temps progressif. Maintenant, parce que je ne suis pas du tout masochiste, je préfère dire éventuellement, pour l'exemple, à Patrick, « Patrick, frappe-moi, mais je vais utiliser l'impératif aoriste. » Et si j'utilise l'impératif aoriste, mon ami Patrick, sauf s'il est mal disposé vis-à-vis de moi, ne devra me frapper qu'un coup. Pourquoi ? Parce que l'aoriste est le temps de l'histoire, il est le temps de l'instantané. Je fais quelque chose ou j'ai fait quelque chose, ça a été fait une fois pour toutes. Vous voyez la différence ? Or, dans 1 Jean, chapitre 1er, chapitre 3, les textes que nous avons lus, vous avez l'utilisation soit du présent, soit de l'aoriste. Il se trouve que si on traduit tel quel, on peut traduire sans montrer la nuance. La raison pour laquelle certaines traductions ont mis « ne pratique pas le péché », là où on peut traduire « ne pêche pas », c'était simplement pour montrer la nuance de temps. Parce que ne pratique pas le péché donne une idée que ne pêche pas ne donne pas. Dans l'expression pratiquer le péché, il y a l'idée de la durée. J'exerce le métier de pêcheur, vous comprenez ? Donc ne pêche pas, on ne sait pas. Est-ce que c'est sur la durée ? Est-ce que c'est sur un élément précis à un moment donné ? C'est beaucoup plus flou. Voyez ? Alors, il se trouve que dans le verset 9 de 1 Jean 3, ou au début du verset 6, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, ou dans 5, 18 encore, c'est un présent. C'est-à-dire que nous pourrions traduire « ne vit pas une vie professionnelle de pécheur ». Il n'est pas toujours en train de pécher. Au verset 8 d'1 Jean 3, il est dit « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et vous avez là l'indice. S'il pêche dès le commencement, c'est qu'il est toujours en train de pécher. depuis qu'il est devenu diable, il ne fait que ça. Et c'est ça le problème. Quelqu'un qui appartient au diable fait comme le diable. Le diable pêche dès le commencement. Tant que nous ne sommes pas nés de Dieu, nous péchons d'un bout à l'autre de notre vie en dehors de Jésus-Christ, sur la durée. Donc le croyant ne s'adonne pas continuellement au péché, voilà ce que dit le texte. Il ne se complaît pas dans le péché, il ne se vautre pas dans le péché, il n'est pas toujours en train de tirer à côté de la cible de Dieu, et là, j'utilise simplement le sens du mot péché, parce qu'il y a plusieurs mots qui veulent dire péché en français, mais ici nous avons un mot particulier qui indique manquer le but, manquer la cible. Quand un tireur grec avait son arc et visait une cible, s'il manquait la cible, il disait « j'ai péché ». Et c'est le mot qui a été récupéré, un des mots qui a été récupéré et qui figure ici et qui est traduit par « péché ». Lorsque vous avez le mot « iniquité », c'est un autre mot qui veut dire la transgression de la loi, celui qui vit sans loi. Donc, celui qui est véritablement né de Dieu ne vit pas dans une faillite perpétuelle. Il ne vit pas en permanence dans l'habitude du péché, dans la continuité du péché, dans une succession ininterrompue de péchés. Il ne peut pécher, dit même le texte, vous avez remarqué, hein, il ne peut pécher, là encore c'est un infinitif présent. Il n'est pas capable de pécher habituellement avec persistance. Il est en conflit avec le péché. Comme le disait le réformateur Calvin, l'esprit ne laisse pas fleurir le péché qui ne règne pas en lui. Pas possibilité que le péché se mette à fleurir, et arrêté avant, dans la vie de celui qui est né de Dieu. C'est ce qui devrait toujours être, mais nous verrons la pratique tout à l'heure. Alors bien entendu, si l'infinitif qui est utilisé ici avait été aoriste, cela aurait signifié il est incapable de commettre un péché. Alors ça aurait été problématique, hein. S'il est dit que celui qui est né de Dieu est incapable de commettre un péché, alors nous tombons dans le travers de certains mouvements et de certaines sectes. 1 Jean 2:1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Là, c'est un aoriste. Je vous écris ces choses afin que vous ne fassiez pas acte de péché. Ça, c'est ce que nous devons viser en tant que disciples de Christ. Ce que je dois viser, c'est de ne pas tomber, c'est de ne pas broncher, c'est de ne pas faire une faute. Aoriste. Mais si quelqu'un a péché ou si quelqu'un pêche, là encore, c'est intéressant, c'est encore un aoriste, si quelqu'un vient à pécher, si quelqu'un vient à commettre une faute, parce qu'il n'est pas installé dans l'habitude du péché, alors il y a une solution. Alors nous avons un avocat. Alors nous avons un patron, le terme peut être utilisé aussi de cette manière, parce que le patron c'était celui qui faisait beaucoup plus encore que simplement plaider, il pourvoyait aux besoins, il s'occupait de la sécurité, etc. Il allait très très loin à Rome dans la relation avec ses clients en quelque sorte. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Donc si quelqu'un a fait une faute, nous avons un avocat. Voyez, j'ai voulu insister sur l'importance, comme le fait Jean, de faire la différence entre le péché accident, aoriste, et le péché habitude. Celui qui est né de Dieu ne doit pas vivre dans l'habitude du péché. Quand un disciple de Jésus-Christ commence à s'habituer au péché, c'est qu'il est sérieusement malade. Et il peut même arriver à un point où on peut se poser des questions concernant sa nouvelle naissance. Voilà en quelque sorte ce que l'apôtre Jean dit au passage aux croyants de l'Église de Jésus-Christ. Donc, ma conclusion, avant d'arriver maintenant à la partie pratique, un croyant authentique ne se plaît pas dans le péché. Il n'y persiste pas. Je ne veux pas dire que certaines formes de péché ne le tentent pas, ne lui font pas plaisir. Il y a des formes de péché qui nous attirent. Il y a des formes de péché que nous aimons, même en sachant pertinemment qu'elles vont nous détruire après nous avoir fait plaisir. Quand quelqu'un a des problèmes de sexualité, il vise le premier plaisir. Et il va dire, mais j'aime ça. Même si je sais qu'ensuite je me détruis, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a, c'est que quand il tombe en tant que né de Dieu dans la faute, au niveau de la sexualité, ensuite, on va le voir, il vit une révolution intérieure terrifiante. Précisément parce qu'il y a en lui la semence de Dieu, nous l'avons dit hier soir, le sperme de Dieu, la vie même de Dieu. Et que cette vie même de Dieu, cette vie de Jésus-Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire, ne peut pas accepter de vivre en compagnie du péché. Donc il va être très très mal à l'aise dans sa vie. Le péché engendre une grande souffrance, car c'est un ennemi terrible, terrible, tout simplement parce que celui qui est né de Dieu a changé de milieu, c'est ce qu'il nous est dit au chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il a changé de milieu. Et il y a là un verbe qui signifie marcher en changeant de milieu. Nous verrons qu'il y a d'autres verbes dans le texte qui signifient marcher, mais marcher en restant, en gravitant dans le même milieu. Oh, si je prenais peut-être deux illustrations, je parlerais de la chenille avec son tube digestif vorace, qui est d'ailleurs elle-même un tube digestif vorace qui broute l'herbe avec sa mâchoire de broyeur, et qui, un jour, fait place au papillon qui plonge sa trompe élégante roulée en spirale dans le nectar des fleurs. Ou encore la larve, qui aime la vase nauséabonde, qui s'en recouvre, qui s'y enfonce, qui aime l'obscurité, qui sort de nuit, et qui un jour fait place à la libellule, l'insecte gracieux, chatoyant, d'une propreté impeccable, qui aime le soleil et la lumière par-dessus tout. Nous avons changé de milieu le jour où nous sommes nés de Dieu. Chapitre 3, versets 5 et 6, le laisse entendre, le croyant vit dans la présence de Jésus. Jésus apparu pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Il est le grand vainqueur du péché. Et bien sûr, Jésus-Christ, en moi, n'aime pas le péché. Puisqu'il est apparu pour désagréger, désintégrer, c'est un terme extrêmement fort, il est apparu pour désintégrer les œuvres du diable. Plus Christ règne en moi, plus il y a de haine pour le péché. Plus la parole vivante de Dieu demeure en moi, plus Satan est vaincu, c'est ce qui est dit au chapitre 2 et au verset 14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Si Christ demeure en moi, si sa parole règne en moi, alors j'ai les armes de victoire, je produis les anticorps face aux assauts de la puissance des ténèbres. Dieu en moi ne peut que haïr le péché qui a nécessité la mort de son Fils sur la croix et qui a plongé les hommes dans le chaos. Alors souvenons-nous de cela, il y a opposition entre nouvelle nature et péché comme entre feu et eau. Ça, c'est une des grandes affirmations de la première épître de Jean sur laquelle nous devons toujours revenir. parce que nous sommes dans un monde qui relativise tellement le problème du péché, qui refuse d'accepter l'existence du péché. Vous savez que nous sommes dans un monde où les circonstances atténuantes ont pris des proportions absolument incroyables et où tout s'explique. Vous avez mauvais caractère parce que vous avez dans le domaine du cerveau tel aspect qui ne fonctionne pas très bien, etc. On est capable aujourd'hui de tout expliquer pour disculper totalement parce que le diable aime le péché, le monde entier vit et gît sous le malin. Et donc, dans la mesure où on est conduit par le malin, on ne veut absolument pas s'attaquer à ce problème du péché. Alors, et s'il pêche maintenant ? Si le croyant pêche, si le croyant commet un péché par accident, de manière isolée, à un moment donné, s'il lui arrive de pécher, chapitre 2, verset 1, parce que le disciple de Christ a deux natures. Ma vieille nature n'a pas été concrètement éradiquée, ma vieille nature a été clouée sur la croix. Et je bénis Dieu de ce que Jésus-Christ ne soit pas mort simplement pour mes péchés, mais pour que ma vieille nature, l'usine productrice des péchés, soit clouée sur la croix. Le problème, vous le savez, c'est qu'il faut vivre, il faut pratiquer ce qui s'est passé sur la croix. Et vous savez combien la vieille nature est capable par moment de faire remuer le couvercle de son cercueil, hein ? Combien ça nous démange à quelque part ? Combien par moment nous pouvons être écartelés entre nouvelle et vieille nature ? Alors, comment réagir ? Quelle doit être la réaction du disciple de Christ ? Eh bien, j'aimerais introduire cet aspect par cette remarque d'un homme de Dieu du passé qui a écrit ceci : une des raisons pour laquelle le péché se développe si bien est qu'il est traité comme un chou à la crème au lieu d'être traité comme un serpent à sonnette. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde qui relativise tellement de péchés, qui évacue totalement le concept du péché, que dans nos églises, nous avons perdu de vue l'acuité, la gravité du péché. Nous nous sommes installés dans un flou, dans une sorte de relativisme. Et vous savez que chaque fois qu'un réveil spirituel se produit à quelque part, il commence par une prise de conscience de la gravité du péché. Le péché retrouve son véritable relief. Nous devons nous souvenir que le péché a coûté la vie au Fils de Dieu. Que Dieu ait donné son Fils unique et bien-aimé jusqu'à la mort de la croix pour régler le problème du péché montre à la fois combien nous avons d'importance aux yeux de Dieu, combien il nous aime, mais montre au même moment la gravité du péché. Que Dieu soit allé jusqu'à donner son Fils bien-aimé à cause de mon péché montre combien le péché est quelque chose de grave à ses yeux. J'ai sélectionné quelques citations impressionnantes à ce sujet. Quelqu'un écrit ceci : le péché est une présence explosive et toute puissance s'étiole et disparaît dans sa chaleur destructrice. Chaque délice spirituel est vaincu par son toucher malveillant. Le péché affaiblit la vision et conduit à l'aveuglement. Le péché engourdit l'ouïe et tend à rendre les hommes sourds. Le péché pervertit le goût et amène les hommes à confondre le sucré avec l'amer et l'amer avec le sucré. Le péché durcit le toucher et tôt ou tard rend un homme insensible. Ce sont toutes des analogies scripturaires, c'est-à-dire des exemples qui figurent dans les Écritures. Et leur signification commune semble être celle-ci. Le péché bloque et étouffe les sens délicats de l'esprit. À cause du péché, nous devenons insensibles, nous perdons toute perspicacité. Le péché engendre l'endurcissement, il anéantit ainsi notre sensibilité à la douleur. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Jésus, parlant des signes de la fin des temps, dans Matthieu 24, disait au verset 12 que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le mot iniquité ici, c'est le mot précisément qui signifie la rébellion à la loi de Dieu, l'opposition à la loi de Dieu. Parce qu'on ne veut plus de la loi de Dieu dans sa vie, parce qu'on fabrique ses propres lois anarchiques, l'homme devient insensible. Et il tue cette capacité d'aimer que Dieu lui a donnée. Et je peux comprendre pourquoi nous sommes dans un monde qui est une telle loi de jungle, n'est-ce pas ? Quelle dureté dans les relations des uns avec les autres, quel manque de nuance, quel manque de courtoisie, quelle insensibilité. Et nous l'avons lu dans 2 Timothée 3 hier soir. La caractéristique des derniers temps, c'est l'insensibilité. Ça, c'est le résultat du péché. J'ai là un autre texte très intéressant concernant l'engrenage du péché. Un écrivain cite ceci, « Le péché engendre le péché ». La première fois que nous commettons un acte répréhensible, ce sera peut-être avec hésitation, tremblement, frémissement. La deuxième fois, tout deviendra plus facile. Et si nous continuons, nous ne ressentirons plus aucune difficulté. Le péché perdra son aspect terrifiant. S'engager dans la voie du péché revient à s'y enfoncer de plus en plus. Un autre auteur écrit ceci, « Un mensonge doit être couvert par une dizaine d'autres ». Le cycle fatal du péché passe d'un problème à une réaction coupable fautive, causant de ce fait un problème additionnel qui est encore suivi d'une réaction coupable additionnelle. Voyez la croissance du péché. Les habitudes répréhensibles sont difficiles à abandonner, mais si elles ne le sont pas, elles vous lieront toujours plus étroitement. Vous serez attachés par ces cordes dans un cycle fatal. À la longue, vous devenez esclave du péché. L'apôtre Jean va donc dire, au chapitre 1er et au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si je pêche, si je fais une faute, je dois aussitôt pratiquer la vérité. Je dois aussitôt pratiquer la vérité. Ou encore, verset 7, marcher dans la lumière. C'est-à-dire que je dois être authentique dans mon christianisme. C'est là que nous rejoignons notre thème. Nous sommes authentiques dans notre christianisme lorsque nous avons une juste attitude à l'égard du péché commis. C'est-à-dire lorsque je ne cache pas quoi que ce soit, lorsque je ne triche pas, lorsque je suis droit, ouvert, honnête, transparent par rapport à ce péché commis. Je l'ai dit tout à l'heure, quand nous tombons, quand nous faisons une faute, se produit en nous une révolution extraordinaire qui nous est partiellement décrite ici. Il est dit que Christ, l'avocat, plaide devant le Père, en quelque sorte, c'est une image, il présente le sang qui a coulé sur la croix pour couvrir cette faute. Ça, c'est ce qui se passe au moment où je tombe dans le péché. D'autres textes disent que le Saint-Esprit, lui aussi, avocat, va plaider. Et le Saint-Esprit va plaider dans mon cœur pour me ramener à la croix en vue d'une vraie repentance, d'un vrai pardon. Et nous savons ce que cela veut dire, parce que nous l'avons peut-être même expérimenté ce matin avant de venir ici. Peut-être que nous sommes en train de l'expérimenter maintenant, au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude. Le Saint-Esprit laboure notre cœur, laboure notre conscience. Et il nous rend plus sensibles que nous l'avons été à la réalité de tel péché qui n'est pas réglé dans notre vie. Ah, si ça s'arrêtait là, ce serait facile. Mais le problème, c'est qu'il y a un troisième avocat. Oh, il est même autre, il est procureur général. C'est Satan. Et Satan plaide contre nous. Il nous accuse de toutes ses forces. Il fait tout pour brouiller les cartes. Il essaye de nous décourager. Il dit, tu vois, tu n'y réussiras jamais. Le message de la Bible n'est pas vrai. Les questions de victoire, de triomphe, tout ça, c'est pas vrai. Dieu est un Dieu menteur. Il essaye de nous montrer plus noir que nous sommes. Pourtant, c'est difficile. Ou encore, il essaye de tout faire pour nous disculper. Tu as des circonstances atténuantes. C'est lui qui a commencé. Tu es le plus âgé, il est le plus jeune. Et puis alors, on va en parler, hein, de toutes ces réactions diaboliques, n'est-ce pas? Il nous incite à résister à Dieu, à entrer dans les ténèbres du mensonge et de la duplicité. Il nous incite à cesser de vivre un christianisme authentique. Et il a un point d'appui en nous. C'est notre tendance à l'orgueil. Jamais nous ne montrons tant notre orgueil que dans notre réaction vis-à-vis du péché. C'est incroyable ce que, lorsque nous fautons, nous sommes capables de mettre en branle pour nous disculper. Alors j'aimerais passer un court moment pour terminer à évoquer cette stratégie des ténèbres. Cette manière dont l'ennemi fait tout, utilise toutes les ficelles de son métier diabolique pour nous maintenir dans les ténèbres, c'est-à-dire loin d'une vie chrétienne authentique. Alors, vous avez remarqué que la première épître de Jean, après son introduction dans les quatre premiers versets, commence par une proclamation. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Dieu brille. Et Dieu brille de manière éclatante, insupportable. Ça, c'est le côté de ce qu'on appelle la transcendance de Dieu, d'un Dieu qui nous dépasse complètement. Mais Dieu aussi se révèle. Ça, c'est un autre aspect de la lumière. Dieu se révèle. C'est son immanence. Il se présente à nous en Jésus-Christ de manière à ce que nous puissions tant soit peu le connaître. Dieu est lumière, c'est-à-dire aussi qu'il n'y a pas la moindre zone d'ombre chez lui. Jacques 1, 17, il est le père des lumières. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Il y a une stabilité lumineuse parfaite. Daniel 2, 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. La lumière demeure avec lui. Sa lumière est un rayon laser qui pénètre instantanément l'individu de part en part. Psaume 104, verset 2, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il est transparent. Il est parfaitement limpide, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a pas la moindre contradiction en lui. Il n'y a pas la moindre complicité, collusion avec le péché. La perfection morale de Dieu est une perfection absolue. Et rien n'échappe à cette lumière parfaite. Et quand je pêche, silencieusement, Dieu montre le péché qui a coûté la vie à son fils. Parce que nous l'avons dit, la croix, c'est la confrontation de la lumière de Dieu avec les ténèbres de l'homme. Et je dois apprendre à voir mon péché à la lumière de Dieu. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église est un flambeau, l'Église doit être lumineuse. Et pourtant, ce texte nous dit, Dieu est lumière. C'est-à-dire que je dois examiner mon péché, non pas à la lumière de l'Église locale, non pas à la lumière de mon meilleur ami en Christ, non pas à la lumière de telle éminente personnalité évangélique à tout niveau que ce soit, mais à la lumière de Dieu. Quelqu'un commentant ce texte a écrit ceci: si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, voilà ce que dit Jean, non pas dans la lumière de l'assemblée à laquelle nous appartenons, ou celle d'un frère ou d'une sœur que nous nous sommes proposés comme modèle, mais bien la lumière dans laquelle il habite. Il y a dans notre vie bien des choses qui sont des péchés à sa lumière, bien qu'elles ne nous soient jamais apparues comme telles à la lumière de notre entourage chrétien. C'est que le Seigneur ne se borne pas à nous faire voir sous leur vrai jour nos paroles et nos actes, mais aussi les mobiles, les sentiments du cœur. Et il nous faut prendre conscience de ce que nous avons à faire à celui pour qui tout est nu et à découvert. Parce que, n'est-ce pas, évaluer notre péché à la lumière de l'Assemblée, ça sous-entendrait que chaque membre de l'Assemblée est capable de lire ce qui se passe dans votre cœur pour donner une juste évaluation. Or, vous le savez très bien, nous n'avons pas cette capacité, nous pouvons avoir un discernement de la part de Dieu. Dieu peut nous révéler dans certaines situations. Il le fait parfois dans sa grâce. Mais nous avons beaucoup de difficultés à aller examiner les motivations profondes. Quelque chose peut apparaître très bien en apparence, alors que Dieu dit non parce que lui connaît la motivation de cette activité. Vous pouvez être très généreux en libéralité, et celui qui compte l'offrande, si vous avez le malheur de mettre des chèques, on ne devrait jamais faire ça parce que les dons devraient être anonymes, n'est-ce pas? Ça c'est dit entre parenthèses. Eh bien, si vous avez l'habitude d'être généreux, on peut dire, ouh, tel membre de l'Église, il est généreux. Et au même moment, Dieu est en train de vous dire, mais tu sais, ta générosité est un péché. Parce que ce sont tes motivations qui comptent, et tes motivations ne sont pas pures. Et mieux vaudrait que tu ne donnes rien plutôt que de donner dans l'esprit où tu donnes. Donc c'est à la lumière de Dieu que nous devons évaluer notre péché. Et c'est là que il peut y avoir en nous de terribles contradictions. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres. Chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire que nous pouvons tromper notre monde. Nous pouvons avoir un langage orthodoxe, pieux, religieux, prétendre que tout va bien entre Dieu et nous, alors que nos actes sont en train de nous séparer de lui. Ça va bien. Ça marche bien entre Dieu et moi, et pourtant, nous mentons. Et nous mentons peut-être même parce que nos points de repère sont mauvais. Nous avons parlé de l'Assemblée, nous aurions pu prendre l'image du cadran solaire. Pendant les heures du jour, alors que le soleil brille, un cadran solaire donne une indication assez précise de l'heure, mais lorsque la lumière de la lune ou d'une autre source le frappe, la lecture qu'on obtient n'est pas du tout fiable. Alors il faut choisir, n'est-ce pas? La lumière du soleil ou la lumière de la lune? Si c'est la lumière de la lune, le résultat ne sera pas le même. Que de contradictions dans nos vies entre le langage et l'attitude. Nous trichons, nous mentons aux autres, nous ne sommes pas vrais avec eux, nous les trompons. Un proverbe arabe dit ceci, bien des gens sont comme les horloges qui indiquent une heure et en sonnent une autre. Nous cessons de vivre un christianisme authentique lorsque péchant, nous commençons à nous installer dans un système de tromperie vis-à-vis des autres. Nous laissons croire que tout va bien. C'est Augustin d'Hippone, celui qu'on a appelé Saint Augustin, des pères de l'Église, qui a écrit ceci. « Soyez sûr que votre vie chante la même mélodie que votre bouche. » Et nous sommes dans ces moments-là capables de mettre en branle toutes sortes de stratégies. Écoutez celle-ci, un homme qui est poursuivi en justice pour avoir commis un vol, et après qu'il ait décliné son identité, le juge lui pose la question rituelle, « Reconnaissez-vous les faits ?»« Ah, monsieur le juge, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai simplement ramassé une corde qui traînait sur le bord de la route. » Et c'est seulement en arrivant chez moi que je me suis aperçu qu'il y avait un bœuf attaché au bout. Mais vous savez, cet animal est toujours à la disposition de son propriétaire. Il n'y a pas que les non-croyants qui tiennent ce genre de raisonnement quand Dieu, par son esprit, travaille dans leur vie. Hélas. J'ai ici une liste de ce que j'appelle les perversions des bonnes choses. Comment des bonnes choses dans nos vies peuvent être perverties. Et comment, bien qu'elles soient perverties dans nos vies, nous sommes capables de considérer, de continuer à les considérer comme bonnes. Écoutez ceci. Voici les péchés que nous risquons de commettre dans un certain nombre de domaines où nous sommes tentés de porter les bonnes choses que Dieu a créées au-delà des limites de sa volonté. Le repos physique se transforme en paresse. Ça ne vous est jamais arrivé que le Saint-Esprit dise à votre cœur « Tu es paresseux » et vous lui répondez « Je me repose ». La réserve se transforme en mutisme. La capacité de gagner de l'argent se transforme en avarice et en cupidité. La joie de vivre se transforme en intempérance. Le plaisir physique se transforme en sensualité. L'intérêt pour les biens d'autrui se transforme en convoitise. Le plaisir de manger se transforme en gloutonnerie. Tu es gourmand. Non, Seigneur. J'aime les bonnes choses que tu as créées. Le respect de soi se transforme en vanité. L'attention portée à soi se transforme en égoïsme. La communication se transforme en commérage. La circonspection, la prudence se transforme en incrédulité. La conviction se transforme en intransigeance. La bienveillance se transforme en protection excessive. Le point de vue se transforme en critique. Maurice, tu juges. Mais non, Seigneur, je ne fais que constater. Mais non, Maurice, tu juges. L'amitié entre personnes du même sexe se transforme en homosexualité. La liberté sexuelle se transforme en immoralité. La rigueur se transforme en perfectionnisme. La générosité se transforme en prodigalité. La protection de sa personne se transforme en malhonnêteté. Et la prudence se transforme en crainte. Et c'est là, voyez-vous, que nous entrons dans un deuxième degré. Non seulement nous essayons de tromper les autres, nous trompons les autres, dit le texte. Mais le texte dit aussi, nous séduisons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous voulons à tout prix nous persuader que nous avions raison. Nous bâtissons de subtiles argumentations. Nous cherchons des excuses, des boucs émissaires. Et nous nous laissons peu à peu séduire par l'argumentation que Satan développe dans notre cœur. Nous déguisons le péché en vertu. Et nous finissons par convaincre, par nous convaincre d'avoir bien fait. Je pense à ces marchands ambulants qui, en France, vendaient des châtaignes en provenance d'Italie sur la place d'un marché. Voici de cela un siècle. Et après avoir inspecté la marchandise, la police les obligea à mettre un écriteau portant ces mots « châtaignes avariées », donc en mauvais état. Alors ils se soumettent à cette obligation et dès que la police a le dos tourné, ces rusés compères se dépêchent d'effacer le « A », ce qui transforma l'étiquette et l'annonce en « châtaignes variées ». Nous nous séduisons nous-mêmes. Je pense à ce peintre français, Dignimont, qui, dans sa jeunesse, portait des chemises fleuries. Et il portait toujours des chemises fleuries, tout simplement parce qu'il n'en possédait que deux. Et plutôt que de les laver, il jugeait plus économique de dessiner des fleurs autour des taches. Ne pas vivre une vie chrétienne authentique, c'est commencer dans notre vie à dessiner des fleurs autour des taches. Quand je commence, après avoir trompé les autres sur la marchandise, à trafiquer et à me séduire moi-même par des arguments extrêmement subtils. Écoutez, et je vais terminer là-dessus, on prendra la suite cet après-midi, écoutez le genre de raisonnement qu'on peut avoir. Le Seigneur vous reprend pour une faute, et vous dites, mais ce n'était probablement pas la meilleure solution, mais je n'avais vraiment pas le choix. Ou encore, oh, je sais que la Bible semble dire que c'est mal, mais je suis certain qu'il y a plusieurs interprétations possibles à ce passage. Ou encore, j'en ai parlé au pasteur, mais il ne m'a pas dit que c'était grave. Oh, bien entendu, je ne lui ai pas présenté tous les faits, mais il en savait assez pour pouvoir m'aider. Ou encore, ce qui est fait, est fait. Je ne peux pas retourner en arrière. Donc, il faut bien que je m'en accommode. Ou encore, si je change maintenant, les gens vont savoir que j'étais dans mon tort. Ou d'ailleurs, j'ai vu d'autres chrétiens en faire autant. Je n'ai donc rien à me reprocher. Et on en arrive finalement, en se séduisant ainsi soi-même, à dire, eh ben, je suis persuadé d'avoir eu raison dans ce que j'ai fait. C'est ce qui s'appelle un processus de rationalisation. J'essaye de trouver des raisons convaincantes pour justifier mon attitude et pour supprimer l'angoisse de la culpabilité. J'invoque une valeur supérieure, une raison noble. Oh, j'ai menti, oui, mais j'ai menti pour un bien. Et vous connaissez tous la pratique des pieux mensonges et des saintes colères. Je pense aux deux incestes de Lot avec ses deux filles. Quel était l'argument de ces deux filles? C'était un argument fantastique, important, essentiel pour le peuple d'Israël. Je vous le livre, Genèse 19, 32. C'est pour conserver la race de notre père. Et c'est vrai qu'il y avait là un argument spirituel. Mais cet argument spirituel dans les Écritures ne doit jamais justifier l'inceste. Alors on vous prend un texte biblique et on l'applique dans un contexte qui n'est pas juste. Ou encore, je le relisais cette semaine, Jérémie 44, 19, ces femmes qui ont des pratiques idolâtres et qui disent à Jérémie quand il parle de la part de Dieu sévèrement, mais oh, tu sais Jérémie, nous offrons de l'encens à la reine du ciel avec l'accord de nos maris. Je suis soumise à mon mari, donc j'obéis au Seigneur, puisque Dieu a dit que nous devions être soumis en tant qu'épouse à notre époux. Mais il n'est jamais dit dans l'Écriture que la soumission de l'épouse au mari soit une soumission inconditionnelle. Jamais. Parce qu'alors si votre mari un jour vous pousse à faire un crime, vous allez par soumission à votre mari faire un crime. Notre soumission s'arrête là où elle se heurte à un problème d'opposition à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que je vais cesser d'être respectueux vis-à-vis du conjoint. Mais il arrive un moment où je dis non. Parce qu'au-dessus de mon mari, il y a mon Seigneur, avec un grand S, Dieu. Et à lui, je dois une obéissance inconditionnelle. Alors nous allons nous arrêter là, dans cette approche de plus en plus pratique, vous le remarquez, de la vie chrétienne authentique dans la non-pratique du péché. Je sais bien que ce n'est pas enthousiasmant. La conclusion le sera. Mais il faut quand même que nous acceptions de considérer les choses comme Dieu les considère. C'est ce qui produit une haine en nous du péché et qui nous aide ensuite à grandir de plus en plus, à aimer la lumière. Dieu veut que nous aimions la lumière, sa lumière, et que nous soyons heureux de vivre en permanence dans sa lumière. Et Dieu veut se servir de ce week-end pour cela aussi. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions pour cette première épître de Jean. Une épître percutante. Une épître qui nous dérange dans notre attitude vis-à-vis du péché. Seigneur, tu sais que combien nous aimons atténuer les aspérités du péché. Combien nous aimons nous disculper. Tu sais, Seigneur, combien facilement nous pouvons tromper les autres sur la qualité de notre marche avec toi. Tu sais aussi combien il est facile de se séduire soi-même, de bâtir des argumentations pour finalement pouvoir nous disculper. Seigneur, merci de travailler dans notre cœur pour que nous réalisions davantage la portée de la mort de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Merci pour ton amour incommensurable à notre égard, au point d'avoir donné ton Fils pour régler ce problème du péché dans nos vies. Merci Seigneur pour la grâce dont tu veux faire preuve à notre égard aujourd'hui, dans la mesure où nous acceptons simplement de plaider coupable, sans chercher à tricher. Aide-nous Seigneur, apprends-moi à aimer de plus en plus ta lumière, puisque je suis devenu un enfant de lumière. Tu veux bénir notre temps de communion, notre repas, préparer cette étude de l'après-midi et te servir vraiment de ce temps pour nous rapprocher de toi, de ton Fils Jésus-Christ aussi, les uns des autres, pour la gloire de ton nom et pour un meilleur service en Jésus-Christ. Amen.